Je vais vous souhaiter la bienvenue à tous ce matin. Vous soyez membres habitués ici à Pontchervy, de passage, curieux, peu importe, bienvenue. Et voilà, j'espère que ce temps autour de la Bible, de la parole de Dieu, va vous éclairer, va vous émerveiller, va vous encourager, va faire tout ce que la parole de Dieu fait. Juste, comme d'habitude, j'ai les jetons, parce que vous êtes impressionnants. Et je voulais juste savoir, est-ce que quelqu'un peut prier pour ce temps, vraiment autour de la parole de Dieu ? Merci.
Bien, on veut te remercier pour JB qui présente ta parole ce matin. Je demandais vraiment d'agir dans son corps, dans son trac, dans son stress. Et toi, tu peux faire ça pour qu'il vive vraiment ton message. Je te prie pour nos cœurs aussi, qu'on reçoive ton message, Seigneur. Et que tu enlèves tout ce qui ne viendrait pas de toi, tout ce qui est stress, tout ça. Seigneur, tu peux vraiment, avec ta puissance, faire ça, ouvrir nos cœurs et vivre. Amen.
Amen. Merci. En même temps, du stress, j'en ai pas trop, parce que vraiment, le message est clair ce matin. Il est vraiment simplissime et clair. Et on est dans une série sur l'évangile de Jean. Et donc, vous avez vu pour la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur église-pont.com. Stéphane est dans le chapitre 4. La semaine dernière, on parle d'une femme, samaritaine. Et aujourd'hui, en fait, on va continuer dans ce texte à essayer de savoir si cette femme, qui vraiment a vu sa vie transformée par Jésus, est une anecdote pour nous, ou est-ce qu'elle est un modèle ? De quoi est-ce qu'on peut s'inspirer ? Est-ce que dans le livre l'Évangile de Jean, cette femme n'est simplement qu'une petite histoire, encore, pour mettre Jésus à sa place qu'il est, c'est-à-dire l'homme, Dieu, Dieu incarné en homme ? Et c'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu ce matin. Et j'ai une question, si c'est la première fois que vous venez ici, vous êtes peut-être venu parce que quelqu'un de l'Église vous a parlé. Et beaucoup de questions qui reviennent, c'est souvent pourquoi est-ce que les chrétiens évangéliques, ceux qui sont constamment en train de se trimballer avec un livre comme ça, sont obligés de parler de Jésus tout le temps ? Pourquoi vous vous sentez obligés de parler de votre Jésus en permanence ? On va voir ça dans le texte. Hein. Je pose une question, je pense que là j'ai à peu près la réponse. Et aussi souvent, et malheureusement, pourquoi est-ce que les chrétiens confondent parler de Jésus et donner des leçons ? Ça aussi on va le voir ce matin. C'est un truc que j'ai redécouvert, en fait, hier soir, au travers d'une discussion avec le groupe de jeunes. Ce besoin qu'on a, même si on a rencontré Jésus, de toujours regarder la petite paille dans l'œil du voisin, sans jamais s'apercevoir de la grosse poutre qu'on a dans le nôtre. Et c'est quand même plus facile, parce que si je vous regarde là, je vais voir vos problèmes. Je ne vais pas voir ce qu'il y a là. Si je regarde vos vêtements, je vois qui a mangé proprement ce matin. C'est plus facile que de faire comme ça, quoi. Et il y a quelque chose quand on rencontre Jésus, comme la Samaritaine, c'est qu'on a un œil nouveau. Jésus transforme nos visions du monde. J'ai entendu ça encore hier soir. Mais pourquoi est-ce que je vois maintenant chez les autres tout ce qui offense Dieu ? Parce que Dieu t'a donné des yeux nouveaux, t'es une nouvelle créature, donc du coup tu vas voir d'autres choses. Et la Samaritaine, elle est un peu dans ce cas-là. Elle n'a pas passé longtemps avec Jésus, mais on va voir dans le texte que c'est juste formidable de la voir bouger, quoi. Et qu'est-ce qu'on va en faire, nous ? Pour la plupart, vous êtes tous des chrétiens et vous avez envie de parler de Jésus au monde entier. Non ? Attends. Au moins à mon pays, la France.
Et pour la Corée du Nord ?
Non plus. La Corée du Nord ? C'est un peu loin. La région ? Non, pas la notre région. Allez, juste la région. Mon quartier, c'est pas mal finalement. Non ? Mes voisins, ma famille, mes amis. Peut-être, je sais pas, je stresse. Qui a jamais stressé à parler, à se dire c'est pas le bon moment, c'est comme ça, d'accord ? On va voir que c'est parce que généralement on se complique la tâche, un peu trop. C'est pour ça que je disais que le message est simple ce matin, parce que l'application que Jésus nous donne est simple. On va continuer la lecture de la Bible là où elle a été laissée la semaine dernière. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 27, page 689 dans les Bibles qu'on a distribuées. Je vous donne le chapitre 4, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ne serait-ce point le Christ ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et j'arrête dans la Bible pour maintenant. Est-ce que cette femme est une anecdote dans le déroulement de la vie de Jésus ? Ou est-ce que Dieu a inspiré l'apôtre Jean pour que, quand il écrit son évangile, cette histoire-là, ces histoires, il y a une histoire dans l'histoire, ait un sens ? Vous avez la réponse dans la question. On va vraiment regarder la femme samaritaine, parce que c'est elle quand même qui est au début et à la fin de l'histoire, avec un truc qui tombe en plein milieu, et on se demande pourquoi Jésus parle de métier agricole et autres. Donc bref, la femme samaritaine, pour rappel, c'est une femme qui est paria, qui est rejetée par son village, par la plupart des habitants. Je ne vais pas revenir dessus, encore une fois, écoutez le message de la semaine dernière. Mais en gros, c'est parce qu'elle vit une vie qui n'est pas standard par rapport à l'époque. C'est-à-dire que cette femme a eu 5 maris, dont le dernier n'est pas le sien. Enfin, c'est pas un mari, elle n'est pas vraiment mariée. Enfin bref, elle fait des trucs qu'il ne faut pas faire à l'époque. Et c'est pour ça qu'elle va puiser le midi. On ne puise pas en pleine chaleur à cette époque-là, en Samarie. Donc elle va au moment où elle ne peut, on va dire, infecter personne, parce qu'elle est. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, tout le monde l'évite, quoi. C'est vraiment la pestiférée du village, quoi. Et elle va rencontrer Jésus, et Jésus, juste en lui disant son problème, va résoudre ses problèmes. Il va révéler, faire sortir que ce qu'elle croit être son plus grand besoin, c'est-à-dire cumuler des relations avec les hommes, ce qu'elle pense va la satisfaire, est faux. Ce qui va la satisfaire, c'est une relation avec lui, avec Dieu. Et regardez le texte, elle va aller tout de suite témoigner. Ce qu'on appelle témoigner dans notre jargon, c'est on essaye de présenter tout ce livre. En quoi ? 4 phrases ? Pour ça que ça marche pas des fois. C'est parce que c'est trop compliqué. Et Jésus a un moyen très simple. Regardez les 3 qualités du témoignage de la Samaritaine. La sincérité face à ses péchés. Elle ne va pas voir le reste de son village pour leur dire « Vous êtes des pourritures ! Vous méritez l'enfer ! C'est pas bien ce que vous êtes. Vous êtes des gens malhonnêtes. » Elle va voir les gens pour leur dire « Venez voir, le gars là-bas m'a dit tout ce que moi je fais de mal. Le gars là-bas m'a révélé ce que moi je fais de mal. » Elle fait quoi en fait ? Elle est juste en train de montrer Jésus. La simplicité de ses paroles. Quand elle a rencontré Jésus, elle n'a pas attendu 17 ans pour bien se former, lire la Bible 17 fois, et vraiment la connaître, et la perfection, avoir 2 doctorats en théologie, un master en cuisine pour accueillir les gens à la maison. C'est immédiat. Elle veut juste montrer Jésus. Elle veut juste faire connaître celui qu'elle considère comme le Christ. C'est ce qu'elle dit. Et le naturel de son témoignage. Elle n'a pas attendu de digérer l'information. Elle a commencé à parler de Jésus tout de suite après l'avoir rencontré. C'est tellement naturel qu'elle va partir à la va-vite, poser sa cruche et aller vite, vite voir les gens, au moins ceux qui vont l'écouter ou parler. Mais à chaque fois, de toute façon, dans ces 3 qualités, le principal, c'est qu'elle montre Jésus. Alors, est-ce que c'est un exemple ou une anecdote ? Dans le récit de Jean, on a déjà une petite piste. Hein. Mais on continue avec la portion agricole du texte. Verset 27, je vais les relire. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ? De quoi parles-tu avec elle ?» Puis 31, Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Voit Jésus avec cette femme, au moment où ils reviennent d'être allés chercher à manger, et cette femme s'en va au moment où eux arrivent, peut-être en courant. J'aime la voir partir en courant, parce que c'est un peu comme ça que moi je le vis. On a découvert un truc qui est « Ah, j'ai rencontré Dieu, et je vais le faire partager. » Et eux arrivent, avec de la nourriture. Probablement, ils voient, ils ne savent pas si Jésus, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il n'a pas bu. Mais ils le pressent de manger. Il vient de parler avec quelqu'un avec qui il ne devait pas parler. Mais là, je pense qu'il se rappelle peut-être le psaume 115, hein, on a vu 115.3. Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Là, Dieu est sur terre. Il continue à faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il veut parler à une femme avec qui il ne doit pas parler, il le fait. Et c'est aussi pour marquer cette différence entre ce qu'il va leur dire après, qui est quelque chose qui vient du ciel, qui est vraiment céleste, et toute la réalité qui est céleste, qui est la nôtre. C'est quoi le plus important ? Jésus place principalement ce qui est céleste en premier. Et la preuve dans le texte, c'est que les disciples, en fait, le poussent à manger, et ils ont une réponse inattendue. Et on va regarder le passage entier, mais on a l'histoire de la Samaritaine, on a cette histoire de la moisson, et puis on a le résultat, à la fin, finalement. On a le terrestre, on a le céleste, et on a le résultat des deux. Et c'est hyper important, hein ? On a l'histoire de sa vie avant Jésus, on a l'histoire de sa vie après Jésus. Et on voit comment cette Samaritaine, paria de sa famille, paria du village, devient la première missionnaire non-juive de Dieu. De rien, de pauvre bonne femme qu'on n'a pas envie de fréquenter, elle se transforme juste en missionnaire de Dieu, quoi. Et sans études. Juste en faisant quoi ? Dans la simplicité, en montrant celui qui l'a sauvé. On va regarder la moisson de plus près. En fait, parce que Jésus est en train de décrire exactement ce que la Samaritaine est en train de vivre. Verset 35, les champs sont prêts. Elle va voir les gens qu'on connaît, nous, si on se met à sa place, voir les gens qu'elle connaît, pour leur expliquer ce qu'elle vit. Regardez, levez les yeux sur les champs de Pontcherry. La moisson est prête. Dans le terrestre, il fallait attendre 4 mois, visiblement, pour avoir la moisson, pour pouvoir manger. Là, Jésus leur parle de la nourriture céleste, la nourriture spirituelle dont on doit se nourrir quand on connaît Jésus. Parlez de Jésus, montrez Jésus à Pontcherry et dans toute la région. C'est simple, non ? Démonstration par l'exemple, on le verra après. Verset 36, on a un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Le salaire, c'est qu'on peut manger. À l'époque, le salaire, il sert à manger. C'est toujours pareil aujourd'hui. C'est une nourriture que Dieu nous propose. C'est un truc de malade. En témoignant, en parlant de Jésus, on mange. Parce que certains l'ont ressorti, ça, déjà. D'arriver à parler de Jésus et d'être entendu en face, comment ça satisfait. Et en plus, on fait de l'épargne. On amasse des fruits, du résultat, pour la vie éternelle. En sorte que tous ceux avec qui on peut avoir parlé ici sur terre, on va les retrouver là-haut. Et plus que ça, on va se réjouir là-haut, avec ceux qui s'aiment. Dieu, c'est lui la graine. Hein. Jésus est la parole. La graine vient de Dieu, on n'a rien pour nous. Mais il y a des gars, juste avant la Samaritaine, qui ont semé pendant des siècles, qui ont payé de leur vie en semant même. Des gars comme Jean-Baptiste, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël, Sophonie. Si vous ne connaissez pas la Bible, c'est un peu bizarre comme nom. Mais c'est tous les gars qui ont annoncé Dieu avant, qui ont annoncé plus précisément Jésus. Et ces gars-là ont fait que semer. Ils n'ont jamais vu la récolte en l'air. Et la Samaritaine, elle est arrivée pourquoi elle ? Moissonner. En une seconde. Elle est devenue moissonneuse pour Dieu. Et on se réjouira avec tous ces gars qu'on va retrouver après. Hein. Parce qu'ils seront tous là-haut. Moïse, Abraham. On va tous les retrouver, ils ont tous semé avant nous. Et verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé avec vous, ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. En sorte que semeurs ou moissonneurs se réjouissent ensemble sans arrogance ou même dire c'est grâce à moi si un tel ou un tel est venu à Jésus. On n'y est pour rien. On n'a qu'une mission. simple, efficace. Montrez Jésus. Pointez Jésus. Ce qu'il a fait dans nos vies. Et livrez nos péchés. Parce que la Samaritaine, quand elle va dire « Ce gars-là m'a dit tout ce que j'ai fait », c'est pas les trucs bien. Et l'exemple de la Samaritaine, en fait, c'est vraiment l'idée de tout ce passage, quoi. C'est, Dieu nous appelle à vivre en témoignant de lui pour faire la volonté de Dieu. C'est pas seulement une option. Quand on arrive, qu'on accepte que Jésus est payé à notre place et qu'on accepte de devenir un disciple et d'obéir, alors il faut faire la volonté. Jésus faisait la volonté de son Père. Je crois qu'on aurait bien tort de ne pas faire, nous, simples humains, la volonté de Dieu. Et c'est encore simple, c'est juste en le montrant, c'est juste en parlant de lui, on n'a pas besoin d'études. Jésus a comparé le témoignage à de la nourriture. Après avoir comparé notre besoin de Dieu à l'eau vive, à la boisson. Donc j'ai une question pour les scientifiques, les jeunes. Combien de temps on tient sans boire? Pour les, on a des infirmières dans la salle. 3 jours. 3 à 4 jours maxi, ouais. Et sans manger?
30 jours. 30 jours.
T'as sûr, une étude qui est récente de 2004 sur des grévistes en France. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire des études comme ça. Je sais pas. Alors, maintenant, c'est 80 jours.
Ah ouais?
Mais je me dis qu'il y en a un qui a dû se bouffer un banisto un peu en fourbe pour tenir si longtemps, en fait. Le plus long, vraiment, vérifié, c'était un gars dans une prison de l'armée irlandaise qui était enfermé et qui a tenu 66 jours, vraiment, juste en buvant. 66 jours et il est mort. Ah oui, il est mort, oui. Parce qu'à un moment donné, on passe un cap de non-retour aussi. Et même si vous reprenez la nourriture, c'est trop tard. Et Jésus, je me dis qu'il sait nous parler quand même. Il utilise deux choses qui sont vitales pour nous. Si on ne boit pas, on meurt. Si on ne mange pas, on meurt. Si on ne boit pas et on ne mange pas en même temps, on meurt très rapidement. Vous la voyez, l'urgence de se nourrir de l'eau, de boire l'eau de Dieu. Pas plus, faut pas lâcher plus que 3 jours. Et en témoignant, on mange, on a besoin de manger. Sinon, la relation avec Dieu est tordue. On a besoin de ça, ça doit être un besoin chez nous. Et tout ce passage en fait de la Samaritaine autour de la moisson, autour de l'eau, c'est juste notre besoin de nous nourrir et de boire auprès de Dieu. On boit avec la parole, on boit le matin, le dimanche matin et même en semaine, quand on est ensemble et qu'on parle de Dieu et qu'on prie ensemble. Et on mange à chaque fois qu'on parle de Jésus. Il faut vraiment qu'on le voit comme quelque chose de vital. Ça ne doit pas nous faire peur. Je le répète encore et toujours, le modèle est simple. Montrez Jésus. Montrez ce que Jésus a fait pour nous. C'est aussi simple que ça. On n'a pas demandé aux gens d'arrêter de fumer, d'arrêter, je sais pas, tous les trucs bêtes que j'ai entendus, moi, quand je me suis converti, pour être parfait. Arrête de fumer, arrête de conduire vite, arrête quoi encore, de dire des gros mots, arrête de... Qui m'a parlé de Jésus? Je me rappelle des gens qui m'ont parlé de Jésus. Les autres, j'ai pas voulu les écouter. La Samaritaine, elle est obéissante naturellement, sans se forcer, et même avec de la joie. C'est pour ça que je vous disais que j'aime la voir partir en courant, parce que je pense qu'elle a eu de la joie à faire ça. Ça a transformé sa vie misérable de paria dans un village. Elle est authentique et naturelle, il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Jésus a toujours été authentique, il attend pareil de nous, on reste naturel. Tout ce qu'il faut, c'est pointer Jésus. Puis se réjouir et se nourrir de cette relation. Jésus-Christ a changé nos vies. Et peut-être il va changer votre vie un jour. Là, aujourd'hui, pourquoi? Il n'y a pas besoin d'attendre. On va regarder l'exemple à la fin du texte. Je vous propose de vous mettre juste dans la peau de cette femme samaritaine qui vient de rencontrer Jésus et qui directement se met dans une position de missionnaire naturellement à parler de lui. Au verset 39, plusieurs samaritains de cette ville crurent juste à cause de cette déclaration formelle, de ce témoignage de la femme. Juste à cause de ça. Et notez combien l'authenticité ressort. C'est la deuxième fois que les gars disent « Ce n'est plus à cause que Dieu nous a dit que nous croyons, c'est-à-dire il m'a dit tout ce que j'ai fait. » La sincérité du témoignage est répétée 2 fois dans le texte, et c'est important. qu'on s'accroche à ça aussi. Pas besoin de jouer un rôle, vraiment pas. Il n'y a aucun hasard dans ce texte, tout se déroule naturellement. Jésus n'est pas témoin de ce que la Samaritaine est en train de faire. Il sait déjà ce qu'elle est en train de faire. Il sait déjà qu'il va rester après avec les gars. Les Samaritains ont supplié Jésus de rester avec eux. Le verbe grec, je ne me rappelle pas. Si vous avez un truc, c'est avec Stéphane pour le grec. Mais le verbe grec, c'est vraiment « vinrent le trouver » et ils le supplièrent de rester avec eux. Et ce qui est marrant, c'est que ces Samaritains supplient Jésus de rester avec eux pour se nourrir. C'est le même verbe qui est utilisé avec les disciples qui suppliaient Jésus de manger. Les disciples voulaient nourrir Jésus, les Samaritains ont demandé à manger à Jésus. Il y a le terrestre et il y a le céleste. Et dans le céleste, c'est Jésus qui nous nourrit. Pour rappel, Stéphane avait précisé, mais les Samaritains avaient fait leur sauce un peu avec l'Ancien Testament. Ils avaient gardé que les 5 premiers livres. Ce qui fait qu'ils n'ont pas entendu parler tous les prophètes et tout ça. Mais eux attendaient un gars qui s'appelle le Taheb. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bref. Le Taheb, c'est la figure attendue comme un messie, comme un sauveur, qui provoquerait un âge d'or, je vous sors ça d'un document, hein, et qui priera pour les coupables et les sauvera. Ils attendaient un homme comme Moïse, qui intercéderait avec Dieu, mais qui serait en fait un peu plus Dieu que Moïse. Dieu avait semé, même s'ils n'avaient pas tout pris, Dieu avait semé auparavant, pour que le jour où Jésus arrive dans ce village, c'était évident, c'est le Taheb. Et après, ils se sont rendus compte que ce n'était pas que le Taheb. Vous êtes toujours spectateur là-dedans ? Essayez de vous mettre dans la peau, parce que la Samaritaine du départ, elle a juste dit « Venez voir le gars qui vient de transformer ma vie en me disant mon gros problème. » Et tout le monde a suivi. Et elle a probablement suivi le groupe et vu ça. Elle est devenue moissonneuse. Et elle a déjà vu son sauveur commencer à sauver d'autres âmes au passage. Verset 42. « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Il n'est plus seulement le sauveur de la Samarie, il n'est plus seulement le sauveur des Juifs, il est le sauveur du monde entier. Donc les Samaritains se sont rendus compte qu'il était bien plus que le Taheb qu'ils attendaient. Et le job de la Samaritaine est fini. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a montré Jésus. C'est tout ce qu'elle a fait. Dieu nous appelle à nous nourrir, témoignant de Jésus-Christ, pour faire sa volonté. C'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Alors c'est peut-être une première fois pour toi aujourd'hui, ou toi qui écoutes le podcast. Pourquoi est-ce que les chrétiens évangéliques parlent constamment de Jésus ? Parce que c'est un besoin vital naturel. Qui peut varier au fur et à mesure de la vie. J'en suis bien conscient. Mais il faut manger, les amis. Et Jésus nous dit très clairement, on mange en parlant de lui. Je vais reprendre un exemple de... Je ne sais pas si vous connaissez Tim Keller. Une partie, oui, c'est un pasteur new-yorkais. C'est une tronche, il en a plein la tête. Il utilise des exemples vraiment très très simples. À répondre à ceux qui disent que parfois on est taxé aussi de prosélytisme à force de parler trop de Dieu et de Jésus, mais si on vous accuse de ça, si vous découvriez un remède miracle contre le sida, contre le cancer, contre toutes les maladies, vous avez le remède, one shot, pour sauver toutes les maladies, pour guérir toutes les maladies. Faites quoi ? Vous reportez ? Non, vous allez courir, vous allez voir tous vos amis malades. Et en plus, vous allez voir même ceux que vous ne connaissez pas qui sont malades pour en faire profiter, non ? Et nous ? Nous, les disciples de Jésus, les chrétiens, on garderait ça pour nous. Le sauveur du monde, on se le met dans un petit coffre, on cache ça, c'est juste pour moi. C'est pas logique. Ça va pas avec le Dieu que je vois dans la Bible. Ça va pas avec Jésus qui partage avec une Samaritaine que personne n'aurait fréquenté. On doit partager ce qu'on croit de Jésus. On doit le montrer quand on en a l'occasion. J'ai eu pas mal d'exemples comme ça cette semaine, de personnes qui ont simplement parlé au moment où c'était le moment. Avec quelqu'un qui dit que la création n'est pas vraie. Il est assis à côté de quelqu'un qui va dire « Ah ben, moi je crois en ça en fait ». Et hop, au nom de Jésus. C'est dangereux. J'ai aussi un ami pasteur qui m'a dit cette semaine que une de ses anciennes églises où il est passé, l'assemblée vivait plus du tout. Ce que je viens de décrire. L'assemblée venait le dimanche, l'assemblée chantait, l'assemblée écoutait un gars parler, l'assemblée rentrait chez elle. Et l'église se vide, et l'église meurt. Et les chrétiens ont des vies tristes. On ne peut pas vivre sans Jésus. On ne peut pas vivre sans manger. On ne peut pas vivre sans boire. Dieu nous appelle à vivre en témoignant Jésus pour faire sa volonté. On a besoin, c'est vital pour nous, c'est une nourriture qui est vitale. Je peux proposer un parcours découverte. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous voulez le rencontrer, comme cette femme qui ne s'attendait pas, alors on fait des parcours découvertes. Prenez un évangile.net à la sortie. Mais restez pas comme ça, on a besoin de manger et de boire. Et pour les autres, bah j'espère que ça va raviver votre besoin de vous nourrir en parlant de Jésus quand vous le pouvez. Et c'est très simple, on apprend à connaître Jésus avec ça. Uniquement ça. C'est là-dedans que vous découvrirez le grand Dieu qui sauve l'univers, qui sauve l'humanité, en mourant pour ce qu'il a créé. On doit juste parler de ça. Il a pardonné nos péchés. Il est mort pour nous. Et on veut vivre pour lui. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où c'est pas toi que j'ai montré. Où j'ai essayé moi tout seul de convaincre la personne en face. Et je te remercie pour ton passage dans ta parole. Qui montre que c'est faire fausse route que vouloir utiliser une méthode comme ça. La seule méthode valable, mon Dieu, c'est vraiment de parler de toi. Je te prie que chacun ici soit amené à simplement dire « qu'est-ce que tu as fait pour nous ?» Je te prie, si quelqu'un ne te connaît pas ici, alors qu'il vienne boire à ta source d'eau vive, qu'il commence déjà à se nourrir en parlant de toi, transforme des vies, mon Dieu, continue à sauver. Tu es le sauveur du monde et rien ne t'est impossible. Tu es dans le ciel, tu fais ce que tu veux. Alors, je te prie vraiment de continuer à sauver à Pont-de-Chervy, dans la région, à Montalieu. Je te prie de continuer de nourrir mes frères et mes sœurs ici. Continuer de donner de l'eau vraiment fraîche, qui fait du bien. Et de la bonne nourriture. Mon Dieu, sois béni et que chacun cette semaine, vraiment, sente ta présence et se sente encouragé pour parler de toi. Amen. Je vous propose, on va chanter un dernier chant.